32. Tim rejoignit Luke au moment où celui-ci ouvrait la porte de la zone de détention. Reste ici, Luke. Wendy, viens avec moi.
Tu ne crois tout de même pas?
Je ne sais pas ce que je crois. Laisse ton arme dans son étui, mais ôte la patte de sécurité. Alors qu'ils remontaient en courant l'allée étroite entre les quatre cellules vides, ils entendirent une voix d'homme. Il parlait d'un ton agréable, affable même. « Ma femme et moi avons entendu dire qu'il y avait quelques vieux bâtiments intéressants à Beaufort, et nous avons voulu prendre un raccourci. Mais notre GPS a complètement merdé.
J'ai obligé mon mari à s'arrêter pour demander notre chemin, » dit la femme au moment où Tim entra.
Elle regardait l'homme blond, qui était peut-être son mari, ou pas, d'un air faussement exaspéré.
« Il n'a pas voulu. Les hommes croient toujours tout savoir, pas vrai ?»«
À vrai dire, on est un peu occupé pour le moment, » répondit le shérif John. « Je n'ai pas le temps de... »«
C'est elle !»
s'écria Luke en surgissant derrière Tim et Wendy qui sursautèrent. Les autres adjoints se retournèrent. Luke écarta Wendy avec suffisamment de force pour la pousser contre le mur.
« C'est elle qui m'a pulvérisé un truc sur le visage pour m'endormir. Salope, t'as tué mes parents !»
Il tenta de se jeter sur elle. Tim le retint par le col de son t-shirt et le tira en arrière. L'homme blond et la femme à la robe à fleurs paraissaient surpris, perplexes. Une réaction parfaitement normale, autrement dit. Mais Tim pensait avoir entreaperçu une autre expression sur le visage de la femme. Une vague prise de conscience.
« Je pense qu'il y a erreur !»
dit-elle avec un sourire qu'elle espérait empreint d'étonnement.
« Qui est ce garçon? Un fou ?»
Bien qu'il fût désormais un simple veilleur de nuit, et cela encore pendant 5 mois, Tim repassa en mode policier sans même réfléchir, comme il l'avait fait le soir où les gamins avaient braqué le Zonis et tiré sur Absimil d'Obira.
« J'aimerais voir vos papiers. »«
Allons, c'est inutile, »
répondit la femme.
« Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ce garçon, mais nous sommes perdus. Et quand j'étais petite, ma mère me disait toujours, « Si tu es perdu, demande ton chemin à un policier. »
Le shérif John se leva.
C'est peut-être vrai, et dans ce cas, ça ne vous gêne pas de nous montrer vos permis de conduire, si ?»«
Non, absolument pas, » dit l'homme.
« Le temps de sortir mon portefeuille ?» La femme fouillait déjà dans son sac à main d'un air exaspéré.
« Attention !» hurla Luke. « Ils sont armés !»
Tag Faraday et George Burkett paraissaient abasourdis. Frank Potter et Bill Wicklow, plutôt dubitatifs.
« Pas si vite !» dit le shérif John. « Les mains en l'air !»
L'homme et la femme ignorèrent l'ordre. Michelle Robertson sortit de son sac non pas son permis de conduire, mais le Six Hour Nightmare micro qu'on lui avait remis. Danny Williams avait glissé la main dans son dos pour dégainer le Glock coincé dans sa ceinture. Le shérif et l'adjoint Faraday voulurent se saisir de leurs armes de service, mais ils étaient lents, trop lents. Contrairement à Tim. Robertson visa Luke, mais la balle tirée par Tim l'approcha en arrière, contre une des grandes portes à double battant du poste, dont la vitre en verre dépoli se lézarda sous le choc. Williams mit un genou à terre pour pointer son arme sur Tim, qui eut juste le temps de se dire « Ce type est un pro, je suis mort ». Mais le Glock se souleva brusquement, comme tiré par un fil invisible, et la balle destinée au veilleur de nuit alla se nicher dans le plafond. Touché à la tempe par le coup de pied du shérif John, l'homme blond s'affala sur le sol. Billy Wicklow lui écrasa le poignet sous sa chaussure.
« Lâche ton arme, ordure. Lâche-la »
C'est à ce moment-là que Madame Sixby, comprenant que les choses tournaient mal, ordonna à Louis Grant et à Tom Jones d'ouvrir le feu avec leurs fusils d'assaut. Williams et Robertson ne comptaient pas. Le garçon, si.